VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Burkina Faso, au moins 15 civils tués entre samedi et dimanche à Pobemengao, localité de la province du Soum, dans le nord du pays, suite à une série d'attaques menées par des groupes armés pendant ces deux jours. Les assaillants ont également enlevé plusieurs résidents, pillé des boutiques et emporté des véhicules, ce qui a provoqué la fuite des habitants vers Djibo, le chef-lieu de la province situé à 25 km au nord-ouest. Selon des sources sécuritaires, des renforts ont été déployés à Pobemengao dès dimanche soir et des opérations de sécurisation sont en cours dans toute la zone. Le Burkina Faso est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. On passe maintenant à la mort d'Aboubakar al-Baghdadi, le leader du groupe État islamique, annoncé dimanche matin par le président des États-Unis Donald Trump dans une allocution télévisée à la nation. Le chef de l'exécutif américain a déclaré qu'une opération des forces spéciales américaines avait conduit à l'élimination d'al-Baghdadi dans le nord-ouest de la Syrie. Donald Trump a précisé que le leader terroriste numéro 1 du monde est mort après s'être fait exploser dans un tunnel, tuant en même temps 3 de ses enfants. Le tunnel s'est effondré suite à cette explosion. Les forces spéciales américaines n'ont subi aucune perte dans cette opération, mais un grand nombre des combattants d'al-Baghdadi ont été tués et d'autres capturés, a souligné le président Trump. Multiples réactions dans le monde après l'annonce de la mort d'Aboubakar al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. Des réactions du président français Emmanuel Macron en Europe et également sur place au Proche-Orient. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la mort d'Aboubakar al-Baghdadi est une étape importante dans la lutte contre le terrorisme. Le président Emmanuel Macron a fait état d'un coup dur porté contre Daesh pour le premier ministre britannique Boris Johnson. Je cite, « La mort de Baghdadi est un moment important dans le combat contre la terreur. » Son homologue israélien Benjamin Netanyahou a félicité le président Trump pour cet accomplissement, ajoutant que cette réussite est une étape importante. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a parlé de tournant dans la guerre contre le terrorisme. L'Iran a affirmé que l'élimination d'Aboubakar al-Baghdadi ne signifie pas la fin du combat contre l'organisation djihadiste. Moscou a déclaré ne pas avoir d'informations fiables sur une énième mort du chef du groupe État islamique, faisant état de détails contradictoires. Mazloum Abdi, commandant de ceux qui se font appeler Force démocratique syrienne, partenaire de Washington dans la lutte contre l'État islamique, dit s'attendre à une vengeance des cellules dormantes du groupe État islamique. Les forces kurdes en Syrie ont annoncé qu'elles vont s'éloigner de toute la frontière avec la Turquie en vertu d'un accord russo-turc pour mettre un terme à l'offensive d'Ankara dans le nord syrien.
Le président Donald Trump a décrit avec force détail les circonstances de la mort d'Aboubakar al-Baghdadi, chef du groupe État islamique, lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Mais le décès du leader du plus violent groupe terroriste dans le monde a déjà été annoncé erronément à plusieurs reprises. A-t-il vraiment été tué cette fois-ci? C'est la question que Yacouba Ouédraogo a posée à Romain Caillet, chercheur et consultant sur les questions islamistes.
Auparavant, ce ne sont pas les Américains qui annonçaient sa mort, c'était la Russie ou certains pays arabes qui sont connus pour avoir peu de rigueur dans les informations et mélanger propagande et parfois de fausses informations pour déstabiliser l'adversaire. Dans le cas des États-Unis, c'est totalement différent. Là où on pouvait avoir un doute, c'est qu'auparavant, c'est que des sources anonymes qui confirmaient ça à la presse. Mais là, il y a Trump qui a quand même engagé la crédibilité, la responsabilité des États-Unis. Ça serait couvrir l'institution américaine de ridicule et ça, je pense qu'il ne le ferait pas.
Les États-Unis ont annoncé avoir vaincu le groupe État islamique en mars dernier. Est-ce que cette fois-ci, on va dire, l'élimination de Baghdadi signifierait la fin du groupe État islamique?
Non, la fin du groupe État islamique en tant que groupe terroriste, certainement pas. Il va se reformer. Maintenant, l'État islamique en tant que puissance militaire, comme il a pu l'être à l'été 2014, ça paraît peu probable qu'il se reforme et qu'il revienne à ce niveau, à moins d'une déstabilisation majeure de la région, comme l'a été la révolution syrienne dans la lignée du printemps arabe.
On sait que les États-Unis ont pratiquement lâché entre griffes hein, les Kurdes qui ont contribué à la lutte contre le groupe d'État islamique ces derniers temps. Alors, les Kurdes disent craindre des représailles de la part des cellules dormantes hein, du groupe État islamique. Est-ce qu'il faut s'attendre véritablement à des représailles?
Quand vous dites les Kurdes, vous parlez PG, PKK. Oui, mais pas spécialement plus que les autres acteurs. L'État islamique, c'est en groupe avec tous les autres acteurs. D'ailleurs, Trump n'a pas spécialement mis en avant les Kurdes. Il a remercié la Russie, la Syrie, l'Irak et la Turquie. Tous étaient en guerre contre l'État islamique et l'État islamique était en guerre contre tous. Donc effectivement, ils mèneront des opérations contre les PG-PKK qui sont fragilisés après le retrait américain, mais pas spécialement contre eux plus que d'autres.
Qu'est-ce que l'élimination d'Abu Bakr al-Baghdadi peut apporter dans la lutte contre le terrorisme en général dans le monde?
Au niveau de la lutte au jour le jour, d'un point de vue sécuritaire, ça change strictement rien. On prend l'exemple de la France. Certes, le principal attentat le plus meurtrier, il a été organisé, préparé depuis le territoire de l'État islamique. Mais le second attentat le plus meurtrier, celui de Nice, c'est le cas d'un sympathisant de l'État islamique qui s'était radicalisé et qui avait répondu aux appels à commettre des attentats. Donc là où ça va changer quelque chose, c'est que l'État islamique va peut-être avoir des difficultés pour faire accepter le successeur d'Al-Baghdadi auprès du public djihadiste. Ils ne sont pas dans une situation de force, donc il est peut-être probable qu'ils soient plus ou moins anonymes. Ce ne serait pas acceptable pour réclamer l'allégeance de tous au calife. Donc c'est ça l'enjeu, c'est au fur et à mesure que les chefs djihadistes sont tués, il faut que le successeur s'inscrive dans un narratif qui ait une crédibilité auprès du public djihadiste, auquel cas ils perdent le soutien qu'ils ont de ces communautés.
Romain Callier, chercheur et consultant sur les questions islamistes, joint à Paris.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour en Afrique, au Mozambique, le président sortant Philippe Nyusi a remporté la présidentielle du 15 octobre selon les résultats officiels proclamés par la Commission électorale nationale. Mais l'opposition dénonce des fraudes. Éric Manirakiza.
Le président sortant Philippe Nyusi du Frelimo a recueilli 73% des voix contre 22% attribués à son principal opposant, Ossoufou Momad de la Renamo. La société civile et certaines missions d'observateurs ont dénoncé des irrégularités. L'ambassade des États-Unis a cité des divergences entre les listes électorales et le recensement démographique au sud et au centre du pays. La Renamo avait appelé à la tenue de nouvelles élections, dénonçant des fraudes électorales massives et des opérations d'intimidation des électeurs. Vendredi, les corps criblés de balles de la dirigeante de la Ligue des femmes de la Renamo et de son mari ont été retrouvés dans l'ouest du pays. Leur disparition avait été signalée à la veille du scrutin. 10 personnes ont été tuées depuis le début de la campagne électorale, selon la mission locale d'observateurs. Un accord de paix conclu en août entre le parti au pouvoir et la Renamo était pourtant censé mettre un terme à leurs affrontements. Le 15 octobre dernier, les Mozambicains se sont rendus aux urnes pour élire aussi leurs députés et leurs assemblées provinciales.
Afrique australe toujours et au Zimbabwe. La compagnie aérienne nationale zimbabwéenne est de nouveau autorisée à desservir l'Afrique du Sud. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la société exploitatrice des aéroports sud-africains AXA. Cette dernière avait interdit à la compagnie aérienne zimbabwéenne la semaine dernière d'utiliser les aéroports sud-africains en raison de redevances non payées. Mais le contentieux a été réglé, Air Zimbabwe ayant payé sa dette selon AXA. La compagnie aérienne nationale zimbabwéenne est tenue de payer une fois par semaine à AXA une somme en espèces pour couvrir les frais d'atterrissage, de stationnement et de service aux passagers pour un vol hebdomadaire vers Johannesburg, sa seule destination en Afrique du Sud et à l'international. Air Zimbabwe est une des nombreuses entreprises zimbabwéennes qui souffrent du ralentissement économique et de l'hyperinflation dans le pays qui ont suivi des années de mauvaise gestion sous l'ancien président Robert Mugabe. Et pour terminer, en Algérie, la commission électorale a annoncé que 22 candidats sont en lice pour la présidentielle, y compris Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune, tous deux anciens premiers ministres de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Information communiquée alors que les juges et les procureurs sont en grève illimitée depuis hier pour réclamer l'indépendance de la justice. En attendant, les tribunaux, les cours, les cours de justice, la Cour suprême et le Conseil d'État sont paralysés, souligne Saad Eddine Merzouk, porte-parole des magistrats, précisant que la grève pourrait avoir un impact sur la présidentielle du 12 décembre. Les juges sont en effet chargés de superviser le fichier électoral et de recenser les résultats du scrutin dans chaque commune. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
On y va.